Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Le monde au féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le monde au féminin.
De
au Bénin, l'année 2021 a été marquée par le vote d'un certain nombre de lois sur la protection des femmes dans plusieurs domaines. Pour le gouvernement, il faut renforcer l'arsenal juridique destiné à promouvoir les droits des femmes. Retour sur ces différents textes avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleuradandé.
Le gouvernement béninois a introduit au Parlement plusieurs projets de loi sur la femme en raison de la persistance des situations de violence physique et morale exercées sur la femme béninoise avec son lot de conséquences.
Le chef de l'État et son gouvernement ont pris l'engagement d'œuvrer à une aube nouvelle pour la femme au Bénin.
Des modifications ont été apportées au code pénal, au code de procédure pénale, à la loi sur l'embauche et au code des personnes et de la famille. Le gouvernement a également décidé de restructurer l'Institut national de la femme afin qu'il soit à même de se porter partie civile dans les affaires de violence exercées sur la femme. Au Parlement, le vote de ces lois a suscité de nombreuses interrogations.
Lorsqu'on est père de fille, il a oublié aussi de dire lorsqu'on est père d'enfant. Parce que nous qui avions des garçons, ça peut nous amener aussi des dossiers judiciaires à la maison.
Ne regardez pas ce qui se passe à Cotonou, à Porto Novo, non. Allez dans nos contrées où nous sommes élus.
Si la loi sur la répression des infractions commises en raison du sexe a été votée finalement à l'unanimité des députés présents, celle sur l'avortement a déchaîné les passions.
Nous sommes dans une société où la pratique en faveur de l'avortement est tellement avancée, mais l'hypocrisie collective amène à ne pas l'accepter.
Au-delà d'une volonté de donner la liberté à tout un chacun de faire usage de son corps, il faut retourner justement à nos valeurs endogènes, à notre culture, à notre environnement.
Pour le ministre de la Santé, il s'agit de sécuriser une pratique qui se fait en cachette avec un taux de mortalité assez affolant. Benjamin Rumpati.
Le projet de loi qui a été introduit a prévu notamment les cas où, dans une situation de détresse matérielle, financière, morale ou éducationnelle, la femme est confrontée à la complexité d'une équation, celle de garder une grossesse.
En plus du droit qui est donné à la femme de pouvoir donner son nom à ses enfants, le gouvernement a décidé de donner à l'Institut de la femme le pouvoir de défendre convenablement les femmes. Le président Talon se justifie.
L'Institut a automatiquement la qualité de partie civile. Quelle que soit la personne, la victime, quel que soit l'auteur, elle peut se constituer automatiquement partie civile, quand bien même la victime n'est pas plaignante. Si le fait est dénoncé et que le parquet engage l'action, l'Institut se met automatiquement partie civile. C'est une innovation extraordinaire parce que ce fléau fait encore plus de dégâts que la corruption, que les crimes économiques.
La présidente de l'Institut national de la femme est du même avis et appelle les victimes à briser le silence afin de permettre à l'État de leur offrir justice et réparation.
Je sais que beaucoup de nos compatriotes attendent ce moment depuis. Tant les enjeux de défense et de promotion de la cause de la femme béninoise sont énormes, tant l'actualité nous donne à voir assez de preuves qu'il use d'agir et d'agir vite dans le champ d'action qui est celui de l'Institut national de la femme. Les Béninois, dans leur grande majorité, sont conscients de la nécessité d'agir et d'agir sans plus tarder.
Il faut préciser qu'il y a eu également l'obligation faite aux hommes de signer le certificat de paternité pour la sécurité de l'enfant à naître. Les relations intimes entre professeurs et élèves sont proscrites. Le mariage forcé passé de lourdes sanctions. Le gouvernement fait de l'épanouissement de la femme et la promotion du genre une mission d'honneur. De Cotonou, Ginette Fleuradandé pour VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, de nombreuses femmes se mobilisent pour créer des activités génératrices de revenus. L'objectif est de constituer des leviers pour leur autonomisation financière. Voyage dans l'univers de ces femmes qui exercent dans le secteur informel à Abidjan pour prendre en charge leur famille dans un reportage de Delphine Bowis.
Des femmes avec des projets différents, des ambitions différentes, mais un seul objectif. Comment arriver à se prendre en charge et avec leur famille, avec le Fonds FACI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire de la première dame Dominique Ouattara. Aujourd'hui, des milliers de femmes ont réussi leurs activités. Caroline Atta, restauratrice non loin du marché d'engrais, grâce au Fonds FACI, son activité se porte bien. Et à Clotilde Goré de renchérir.
J'ai évolué. Voilà, j'ai payé ce magasin grâce à la taxe. J'ai commencé à réaliser.
Tamla Akua, jeune dame commerçante, est fière de son bilan.
J'ai réussi à grandir, épargner, faire beaucoup de choses.
Mais Mouna Diaby a bénéficié d'un prêt du FACI. Plus d'un an après, son activité de vente de vaisselle s'est vue agrandir.
La première fois, j'avais pris 150 000. Aujourd'hui, j'ai pris 500 000. Donc, je vois que le travail, c'est bien.
Avec ce mécanisme de financement et du refinancement du FACI, nombreuses sont les bénéficiaires qui rêvent de voir leurs activités prospérer et se projeter dans l'avenir. Gisèle Yao.
Actuellement, je veux 2 millions. S'il y a eu les 2 millions, je vais prendre mon propre coin. Je peux faire deux magasins. Un magasin de restauration et puis un autre où je m'épargne mes chaussures.
Du côté de l'ONG RIFA, le réseau ivoirien des femmes pour les actions affirmatives, un fonds de soutien pour les femmes existe à affirme Léopoldine Tizan-Koufi, sa présidente.
Les fonds partent de 100 000 à 500 000. Nous voulons faire en sorte que ces femmes, en remboursant, puissent permettre aux autres d'acquérir aussi des prêts.
Jeanne Dac Loba exerce dans le secteur d'activité de l'attiqué.
J'ai une partenaire avec qui je travaille qui fait l'attiqué déshydraté, qui exporte. On prend à peu près 2 à 3 à 4 tonnes d'attiqué par semaine.
Madame Kwame Aram approvisionne en vivriers des casernes à Abidjan et mène des activités en dehors de la Côte d'Ivoire.
J'ai 5 casernes à livrer, poisson frais, pâte d'arachide, les mêmes activités, je vais les continuer. Je voyage, je vais jusqu'au Ghana, au Sénégal.
Depuis Louise, couturière de son état, des magasins de prêt-à-porter et des magasins de vaisselle en location.
L'ONG RIFA m'a permis d'agrandir mes activités.
Le FACI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, a permis à plus de 125 000 femmes de bénéficier du financement de leurs activités. Quand le RIFA, le réseau ivoirien des femmes pour les actions affirmatives, donnait de l'espoir à près de 1 500 femmes pour leur prise en charge économique. On peut le dire, l'autonomisation économique des femmes est une réalité en Côte d'Ivoire et les activités génératrices de revenus sont des leviers incontournables pour la réalisation de cet objectif. Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
Salut à toutes et à tous, c'est Nathalie pour vous présenter mes meilleurs vœux. Tous sur la même planète. On est tous sur la même planète. Merci, 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 merci. Vous nous écoutez. C'est extraordinaire. Et on a le droit d'être heureux. Il faut y penser. Il faut y penser. Ben finalement, c'est ce que je vous souhaite. Être heureux. Être heureux. Et on essaiera d'être de plus en plus heureux. Ouais, pourquoi pas, hein ? C'est l'objectif.
On s'est rencontrés un mercredi sur le quai. Il m'a dit, mademoiselle, je suis un ami de vos amis.
C'est un grand honneur pour nous de savoir que vous nous écoutez et on pense à vous et on vous aime beaucoup, vraiment. Le meilleur pour vous, tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous souhaitez, il faut que ça se réalise et puis c'est tout. Voilà, à bientôt et bon courage.
Au Tchad, les autorités de transition ont promis pour 2022 le recrutement de 5000 jeunes diplômés en instance d'intégration à la fonction publique. L'opinion publique est sceptique quant à l'application de cette promesse qui est largement en dessous des instances d'intégration, se chiffrant en dizaines de milliers. Notre correspondant N'Djamena André Kodma-Djingar a recueilli des réactions de responsables de plateformes civiles.
Pour faire face à la question de l'emploi des jeunes et la lutte contre le chômage, la fonction publique ouvrira ses portes pour le recrutement de 5000 jeunes en 2022.
Le général d'armée 5 étoiles Mahamat Idriss Déby, chef de la junte militaire, s'adressant aux jeunes diplômés qui manifestent depuis des années pour revendiquer leur intégration à la fonction publique. Une promesse diversement appréciée par les membres du collectif de diplômés chômeurs.
Avant la promesse du président du conseil militaire de transition, le feu maréchal en est promis 20 000 à l'an 2020. Et il en a intégré 7 000 et il restait 13 000. On était tellement surpris du fait que le fils promet 5 000. Nous, on pensait qu'il allait s'inscrire dans la logique de la promesse de son père en épuisant d'abord les 13 000 restants.
Adissou Dibam, l'un des coordonnateurs de la plateforme des diplômés en instance d'intégration à la fonction publique, prend acte.
Nous avons fait la prison, nous avons été humiliés, nous avons été torturés parce que nous revendiquons l'emploi. Nous prenons acte de cette promesse parce que il faut d'abord qu'il y ait la concrétisation. Qu'est-ce que nous rassure que ce n'est pas une promesse populiste mensongère?
Nanga Thierry, coordinateur des professionnels de l'éducation, se bat depuis 13 ans pour son intégration à la fonction publique.
Moi, je ne prends pas acte de cette déclaration du coup. Vous prenez seulement les lauréats professionnels de l'éducation. Nous sommes restés 20 000 et quelques. Les instituteurs adjoints, ils sont au nombre de 14 000. Ceux qui ont, n'est-ce pas, nouveau licence DIPES 1, ils sont au nombre de 6 000. Et les lauréats de grade CAPES au nombre de 155, sans compter les universitaires et ceux qui viennent de l'étranger. Donc au total, on n'a pas moins de 85 000 dossiers en instance d'intégration. Et si aujourd'hui on parle de 5 000, ça c'est des gouttes d'eau dans la mer.
Pour Emmanuel Nelzika, porte-parole de la plateforme des lauréats professionnels de l'éducation, bien que cette promesse n'est pas à la hauteur de leur attente, il y aura de la discrimination comme d'habitude.
C'est un nouveau gouvernement où chacun a au moins 2-3 par an à le faire intégrer avant de quitter. Et nous qui sommes dans la rue pendant des années, nous n'avons pas des parents bien placés pour défendre nos situations. Et vous verrez que c'est toujours les leurs là qui seront intégrés à notre détriment.
Pour Nanga Thierry, coordinateur des professionnels de l'éducation, la lutte ne fait que commencer.
Nous trouvons en cette déclaration une arme efficace pour continuer notre lutte parce que la parole d'un chef d'État est exécutoire. Parce qu'il a dit, j'ordonne le ministre en charge de la fonction publique de recruter dès à présent. Et donc, nous, on attend la première semaine du mois de janvier, deuxième semaine, troisième semaine, s'il n'y a rien, nous descendons dans la rue.
2022, selon le président du Conseil militaire de transition, sera aussi une année de sport au Tchad. Tous les championnats dans les différentes disciplines seront relancés pour offrir un cadre d'épanouissement et d'affermissement à la jeunesse. André Kodma-Djingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Si jeunesse pouvait.
En République du Congo, les jeunes éprouvent beaucoup de difficultés pour entreprendre des activités génératrices de revenus, faute d'accompagnement de l'État. Plusieurs start-up ferment presque aussitôt après leur création à cause des taxes administratives et fiscales. Fin 2021, un jeune entrepreneur qui exerçait dans la restauration, asphyxié par les charges, a mis fin à ses jours. Un reportage d'Arsène Séverin à Brazzaville.
Deux prêts d'environ 10 millions de francs CFA à rembourser, 2 mois de salaires impayés à une dizaine d'employés, les taxes multiples à verser aux services administratifs et policiers de l'État. Le jeune entrepreneur Gaëtan Zalabaka, qui s'exerçait dans la restauration, n'a pas résisté. Il s'est donné la mort. À son restaurant, l'administrateur Destin Bumba raconte le quotidien de leur start-up.
Nous avons reçu la police, nous avons reçu le service des mairies, nous avons payé l'impôt, mais vous savez, on paye l'impôt, on n'a pas même de reçu. Toutes ces pressions-là pour un si petit commerce qui ne marche pas. Le chiffre d'affaires a considérablement baissé, mais les charges, elles, ne baissent pas puisque les employés sont là. L'électricité, les factures viennent à des taux exorbitants.
Le cas Gaëtan Zalabaka concerne beaucoup de jeunes qui essaient d'entreprendre au Congo. Nombreux sont vite découragés et jettent l'éponge, harcelés par des taxes surdimensionnées. Alphonse Ndongo est le patron d'un restaurant.
Ouvrir un restaurant au Congo-Brazzaville relève d'un parcours de combattant. Il faut l'autorisation du ministère du Tourisme. Ça coûte 1 million de francs CFA. Vous imaginez des jeunes. Et après, il y a trop de contrôle. Vous avez la DGST qui vous contrôle, la Direction générale du commerce, la mairie centrale, la mairie d'arrondissement, la police. Bref, tous ces services qui défilent chez vous, c'est pour vous prendre de l'argent.
Les jeunes ne reçoivent rien, témoigne-t-il. L'année dernière, par exemple, 2 milliards ont été promis aux petites entreprises, mais aucun versement n'est parvenu aux start-up. Rufin Kinanga, fermier, souhaite que l'accompagnement de l'État soit plus pragmatique dans l'entrepreneuriat des jeunes.
L'agriculture ou l'élevage sans subvention est un métier à perte. Ma ferme est juste à 72 km sur la route nationale numéro 1, mais vous avez au moins 5 pointes. Il faut payer de chaque passage de votre ferraille. Donc l'agriculture et l'élevage ont vraiment besoin de subventions pour mieux se faire.
Jeune patron dans les BTP, Karel Bilongi fait constater l'absence des banques dans l'accompagnement des entrepreneurs.
Et par exemple, si nous sommes conduits par la maison d'entreprise, où nous avons le quitus qui est comme notre garantie, par exemple le marché que le FINEAP a lancé, qui peut évaluer 30 à 40 millions, je sais que je peux solutionner dès que j'ai gagné. Une banque m'accompagne, il me donne de l'argent, je fais, la comptabilité tenue est suivie par cette maison, et puis nous avançons, et les ouvriers travaillent, nous aussi l'entreprise, une fois que nous atteignons l'étape de la maturité, mais voilà, on va créer des emplois et puis on sera autonome.
Contacté par la VOA pour savoir clairement ce que le gouvernement fait pour aider les jeunes entrepreneurs, le ministère des PME a souhaité ne pas se prononcer sur la question. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi à travers le regard des femmes et des jeunes.
Une initiative qui avait été saluée lors de la COP22 pour son action en faveur de l'environnement, celle de la jeune Yaye Essouadou Fall au Sénégal. À 25 ans, elle a monté une usine de recyclage de pneus usagés qu'elle transforme en différents revêtements de sol, dont le gazon synthétique. Son entreprise est la seule du pays à fabriquer du granulat qui répond aux normes de la FIFA. Allons à la découverte de son activité à travers un reportage d'Alison Lekogo Fernandez et Mbaïdir.
Il semble loin le temps où Essouadou Fall, alors étudiante, broyait des pneus sur sa terrasse avec le hachoir à viande de ses parents. 6 ans plus tard, c'est une usine que cette jeune dakaroise de tout juste 26 ans dirige. Une usine qui a pu voir le jour grâce au financement de 200 millions de francs CFA d'un fonds d'investissement destiné à encourager l'entrepreneuriat féminin en Afrique de l'Ouest. Essouadou Fall, fondatrice d'Ecover.
Nous avons cette machine qui en fait est censée découper les pneus en bandes très longues, j'appelle ça les pneus en spaghetti. Et il y a cette machine qui découpe les pneus en fait en petits morceaux appelés broyats.
Broyés puis transformés en granulats, ces pneus recyclés sont utilisés pour la production de différents revêtements de sol.
Là, nous avons la taille 0,5 mm qui est très 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 fine et qui peut être utilisée pour du revêtement de sol, pour les aires de jeux pour enfants, les terrains de basket, entre autres. Ensuite, nous avons une autre taille qui est celle du 2 mm et qui en fait est utilisée par les complexes sportifs pour le gazon synthétique, entre autres.
L'entreprise de la jeune femme est la première du pays à fabriquer du granulat répondant aux normes de la FIFA. Afin de vérifier la qualité de ses produits, Essouadou Fall a monté ce laboratoire.
Un terrain qui n'est pas certifié FIFA, la FIFA a le droit de se dire que les joueurs n'ont pas le droit de jouer ici parce qu'il n'est pas aux normes. Donc du coup, c'est très important pour nous de respecter ces normes et c'est pourquoi nous avons mis en place ce laboratoire, ce début de laboratoire que nous espérons en tout cas voir beaucoup plus grand et développé par le futur.
Une innovation vue comme une aubaine pour Radim Baye, le directeur du stade municipal de Malika, à une trentaine de kilomètres de Dakar. Jusque-là, il faisait venir le granulat de Turquie.
Au lieu d'aller en Turquie s'approvisionner, on a trouvé sur place du granulat de même qualité. Et c'était sur place, c'est mieux. Donc ça nous épargnait les frais de fret.
Yaïssoua Doufal espère maintenant que son initiative permettra de faciliter la construction d'infrastructures sportives dans la région et pourra ainsi promouvoir le football en Afrique. Alison Ekogo Fernandez pour VOA Afrique, Dakar.
Entre parenthèses.
Au Cameroun, les organisations de protection de l'environnement et les communautés autochtones de la zone forestière de l'est du pays plaident pour la fin de la surexploitation d'une essence végétale rare. L'arbre moabi, connu sous le nom scientifique de Bayonella toxisperma, est menacé par la perte de son habitat naturel. L'huile de noix du moabi est un élément essentiel de la subsistance des Baka et d'autres peuples autochtones. Sa disparition progressive a un impact sur la vie des communautés forestières. Sur place, Emmanuel Juntab nous en dit plus.
Et ce fruit-là, nous le suçons auparavant.
Dans les villages Ntumvo et Kabilon, à l'est du Cameroun, l'évocation du moabi par les communautés autochtones de forêt se fait déjà au passé. Cédric Morel est un jeune du village Ntumvo.
L'exploitation forestière est passée, pour trouver un moabi, ce n'est plus facile. Donc le moabi est en train de disparaître.
De 2009 à 2018, 119 000 mètres cubes de moabi ont été exportés vers la France et la Belgique. Pour la plupart des cas, cette essence est exploitée illégalement. Achille Wanke a récemment réalisé un documentaire sur la surexploitation du moabi dans la région de l'Est.
On peut régénérer le moabi, mais le problème c'est reconstituer le stock dont on a besoin pour à la fois générer des graines pour les populations et à la fois produire des volumes de bois importants pour l'exploitation forestière. Ce qu'il y a aujourd'hui ne permet plus de satisfaire ces demandes-là.
Le moabi est une essence très prisée sur le marché international pour la qualité de son bois. Mais dans les zones forestières, il est plutôt d'une très grave utilité. Comme explique Dr Samuel Ngifo, secrétaire général du Centre pour l'environnement et le développement.
Tout est utilisé dans le moabi. Dans le moabi, on utilise les feuilles comme médicament. On utilise l'écorce comme médicament. On utilise les graines pour en faire de l'huile, huile alimentaire, et pour en faire de l'huile cosmétique. Cette huile-là a une valeur hydratante beaucoup plus élevé que toutes les huiles connues. Donc il y a un marché de très long terme pour le beurre de moabi. Mais l'exploitation forestière va faire disparaître ce beurre de moabi.
Face à la menace de disparition du moabi, des pépinières voient le jour pour préserver cette ressource à l'initiative de Tropical Forest and Rural Development, une ONG locale. Dans les villages Ndomzok et Kabilon à l'est du Cameroun, des plants ont été distribués aux villageois. Marie est une habitante du village Kabilon. Elle a reçu une douzaine de plants de moabi qu'elle fait pousser dans son champ de cacao.
C'est chacun qui conserve ça maintenant dans son champ ou bien là où il travaille pour que soit ses enfants doivent connaître l'arbre qu'on appelle le moabi.
Mais d'autres acteurs proposent que cette ressource soit inscrite à l'initiative CITES, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de fleurs sauvages menacées d'extinction. Il s'agit d'un accord intergouvernemental qui a vu le jour en 1973 à Washington. Dr Samuel Ngifo, secrétaire général du CED.
La raison, c'est que c'est une essence qui est extrêmement utile pour les communautés pygmées. Elles ne vont pas bloquer les routes pour se faire entendre, mais la souffrance qu'elles ont du fait de la destruction de cette essence-là, de sa disparition, est très forte. Et nous pensons qu'il faudrait faire attention.
Le gouvernement entrevoit d'organiser en chefferie unifiée le peuple autochtone Baka, qui a un usage multiforme du moabi. Cette reconnaissance sur le plan administratif va les permettre de bénéficier des projets de développement et de conservation de leurs ressources naturelles. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.